faire.
h 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Elles vont durer 65 ans, ces guerres qu'on appelle les guerres d'Italie, ce conflit général sur lequel on a tendance généralement à passer un peu vite. Elles s'étirent sur les règnes de Charles VIII, de Louis XII, de François Ier et d'Henri II, puisqu'elles se terminent seulement en avril 1559 par le traité du Cateau-Cambrésis. C'est d'ailleurs pour célébrer ce traité et la paix retrouvée que va avoir lieu le célèbre tournoi des Tournelles, au cours duquel le roi Henri II perdra la vie. Mais même après cette paix de 1559, les Italiens vont craindre le retour des Français en Italie. Ce sont des guerres qui n'ont pas bonne presse. Elles sont censées avoir été non seulement stériles pour la France, mais complètement ruineuses. C'est vrai que Charles VIII et Louis XII ont remporté quelques succès, mais d'une façon générale, on a perdu beaucoup d'argent dans cette affaire et beaucoup d'énergie, avec un rêve italien qui néanmoins perdurera jusqu'à Napoléon III. On ne s'est pas beaucoup intéressé pendant très longtemps à ce conflit. On parle énormément de la guerre de Cent Ans, bien entendu. On évoque avec beaucoup de détails les guerres de religion. Mais entre les deux, les guerres d'Italie sont un peu une sorte d'angle mort de l'historiographie. Ce désintérêt, nous dit Didier Le Fur, qui dirige donc ce bel ouvrage aux éditions Passé Composé, ce désintérêt prit fin il y a 3 décennies environ, alors que les livres scolaires en France ne les évoquaient presque plus et qu'ailleurs, il n'était parlé que de la Renaissance, des historiens français, allemands, italiens et espagnols rouvrirent le dossier. D'autres, à leur suite, leur emboîtèrent le pas, apportant ainsi chacun des sommes de connaissances nouvelles et surtout un autre regard sur plusieurs États lors de ces conflits. Eh bien, c'est à toutes sortes d'historiens qui connaissent les différents États composant la mosaïque italienne de l'époque qu'ont été confiés les chapitres de ce livre. Alors, bien sûr, n'oublions pas tout de même l'élément essentiel, très important de ces guerres d'Italie, c'est l'apport en termes de civilisation, puisque nos guerriers, quand ils rentraient des différents engagements, lorsqu'ils rentraient, avaient tendance à vouloir reproduire non seulement sur les bords de la Loire, mais un peu partout en France, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu là-bas dans la péninsule. Nous sommes à une époque où la France devient dominante. C'est la première puissance incontestable en Europe et il est presque normal qu'elle veuille déborder de ses frontières. Il n'est pas inintéressant qu'elle ait voulu le faire dans ce sens-là.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Nous sommes à la fin de l'année 1493, Charles VIII n'a que 23 ans et le voilà qui s'en va à la conquête du royaume de Naples, qu'on appelle aussi le royaume de Sicile. Il considère que ça lui revient de droit, son père, le roi Louis XI, a hérité de ce royaume après l'extinction de la deuxième maison d'Anjou. C'est une souveraineté un peu théorique puisque Naples à l'époque est régie par la famille d'Aragon. En cette année 1493, la France bénéficie d'une conjoncture favorable. Charles VIII le sent, le moment approche de réaliser ce qui était pour lui le rêve absolu. Alors, l'occasion, elle se présente, disons-le, avec la mort du roi de Naples, avec la mort en janvier 1494 de Ferrand d'Aragon. Dès le 10 février, le roi Charles revendique l'héritage contre le fils de Ferrand, qui s'appelle Alphonse, et le jeune roi est résolu. Il est animé par cette espèce d'esprit chevaleresque que lui ont infusé les lectures qu'il n'a cessé de faire dans son enfance. Voici comment nous le décrit Emmanuel le roi Ladurie. « Il est si petit que, quand il chevauche, on a l'impression de ne voir qu'une tête sur une monture. Il est laid, lipu, à grand nez aquilin, cheveux longs, barbe rousse. » Les yeux sont noirs, saillants, globuleux, le regard est vif et pénétrant, le visage ne tardera point à maigrir et enlaidir. Et dès l'été, tout est en place, l'armée de Charles VIII avec ses milliers de fantassins et de cavaliers, avec son matériel d'artillerie, cette armée se lance à l'assaut des Alpes. À son commencement, raconte Didier Le Fur, cette campagne militaire eut les allures d'une longue fête et cet enthousiasme se prolongea au-delà des limites du royaume. Le 2 septembre, Charles VIII entrait dans le duché de Savoie. Le 5, il était triomphalement reçu à Turin. Et c'est vrai que les armées françaises, qui vont bientôt donc affronter les troupes aragonaises, se distinguent par une très grande vivacité. C'est ce qu'on va appeler bientôt la furia francese. L'avancée de Charles se fait sans grande difficulté, du moins jusqu'à ce que la santé du roi chancelle, mais en quelques semaines, de nouveau, il est d'aplomb. Il se lance dans la traversée de la Toscane, des territoires florentins. Et là, évidemment, quand il entre en Toscane, inutile de vous dire que les Florentins sont pas d'accord. C'est Pierre de Médicis qui dirige à l'époque la République de Florence. Il va avoir la mauvaise idée, ce Pierre de Médicis, de laisser les Aragonais passer sur ses terres, ce que bien sûr le roi Charles VIII ne saurait accepter. Les Français, à ce moment-là, vont se lancer dans une opération de dévastation, de dépouillement. On tue, on pille, on incendie. Et c'est vrai qu'en face, Pierre de Médicis n'est pas de taille à lutter. Il va y avoir ce traité humiliant entre le Médicis et le roi de France, ce qui développe le mécontentement des Florentins. Se déclenche une révolte à Florence, le pouvoir est renversé et les Médicis sont chassés de la République florentine. Un capriccio italien très bienvenu de Tchaïkovski, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise était sous la direction de Laurine Mazel.
Vous écoutez Radio Classique.
Charles VIII arriva à Florence le 17 novembre et fut acclamé au cri de « Viva Francia !» 17 novembre 1494. Le 21, il promettait de ne jamais favoriser le rétablissement de l'ancien régime dans la cité, raconte Didier Le Fur. En échange, il réclamait aux Florentins 120 000 livres pour financer son expédition et une rente mensuelle de 12 000 livres le temps de sa durée, avec un adversaire de poids quand même, qui est le pape. Faut pas oublier qu'à cette époque, le pape est un acteur essentiel dans la péninsule. Et le pape de l'époque, c'est un Borgia, c'est Alexandre VI, qui n'est pas un grand ami du roi de France, mais quand il voit approcher l'armée française, il faut bien que la papauté admette qu'elle est impuissante face à ce déferlement. Le roi Valois et le pape Borgia vont entamer des pourparlers. Il est permis à Charles de pénétrer avec son armée dans Rome. Quand même seulement une fois le crépuscule arrivé. Et dans un deuxième temps, il obtiendra des places stratégiques sur le territoire du pape. En revanche, sur le devenir du royaume de Naples, on n'a rien véritablement réglé. La vérité, c'est que le pape est bien content de voir les Français repartir à la fin du mois de janvier. Charles fond sur Naples avec son armée. Il balaye toute opposition. Le roi Alphonse, complètement épouvanté et dépassé par les groupes pro-français qui à Naples entretiennent la révolte, préfère renoncer au pouvoir en faveur de son fils Ferrandino et lui prend tout de suite la fuite. Ferrandino va pas tarder à quitter lui aussi Naples en catastrophe pour aller se terrer sur l'île d'Ischia. Ainsi, dès le 22 février, Charles peut entrer à Naples et c'est une entrée triomphale du roi de France à la tête de ses troupes. On imagine sa joie. Ça a été rapide, ça a été bien mené cette affaire. On pourrait imaginer qu'à ce moment-là, l'Italie entière, la péninsule va basculer et que la France va durablement s'y installer. Et le roi de France va diminuer les impôts, donner des gages à l'aristocratie napolitaine. Au passage, il offre des fiefs à ses alliés. Bref, les Français qui trouvent dans la ville beaucoup de richesses sont très heureux. Quand je dis qu'ils trouvent des richesses, ce sont des richesses financières, bien sûr, monétaires, mais ce sont aussi des richesses artistique et ça joue un rôle absolument extraordinaire. Les trésors de l'Antiquité font littéralement tourner la tête de tous ces grands barons de France. Le roi Charles ne peut pas ignorer pour autant les menaces que le succès tellement rapide, tellement insolent qu'il vient de remporter, peuvent inspirer à ses ennemis. Dès le 29 mars, il échappe à une tentative de meurtre. Surtout, quelques jours après, il y a une grande alliance européenne qui se forme contre lui, ce qu'on va appeler la Ligue de Venise, qui donc réunit Venise, évidemment, mais aussi la Castille, l'Aragon, l'Empire. Même Milan va retourner sa veste. Il faut dire que le duc Sforza n'a pas vraiment apprécié que Charles se montre coulant envers les rivaux des Milanais, c'est-à-dire les Florentins, bien sûr. Donc pour Charles, la situation n'est pas simple, il va devoir repartir pour la France. D'ailleurs, il confie Naples à Gilbert de Montpensier, qui devient vice-roi. Il faudrait consacrer beaucoup plus de temps à ces lieutenants du roi de France qui vont jouer un rôle essentiel dans la péninsule pendant les guerres d'Italie. Le roi quitte donc la région et il part avec 9000 hommes. Tout se passe néanmoins assez bien, jusqu'à ce qu'au nord de la Toscane, le marquis de Mantoue, à la tête de forces bien entraînées, attaque. Il a sans doute 30 000 hommes avec lui, Mantoue. Hein. Il attaque les Français, confrontation terrible, qui a l'air totalement inégale. Face à cette armée tellement plus nombreuse que la sienne, Charles peut trembler et la bataille s'engage. On est à Fort Novo, ce que nous appelons nous Fort Nous, près de Parme. Le 6 juillet, la confrontation est d'une très grande violence sous une pluie battante. Charles et ses troupes vont faire preuve de bravoure. Les coalisés perdent au moins deux fois plus d'hommes et le roi de France parvient à se sortir de ce guêpier. Il n'empêche, sa position reste périlleuse. Ses hommes ont souffert. Il comprend qu'il va devoir négocier et faire des concessions. Quant à son cousin, le duc d'Orléans, qui combattait au nom de ses propres revendications familiales sur le duché de Milan, il est contraint d'évacuer la place de Novare, où il était assiégé dans des conditions terribles. Il était assiégé par les Milanais. Il a bien l'intention un jour de prendre sa revanche. Retenez-le, ce duc d'Orléans, pensez-y, parce que c'est lui qui bientôt va succéder à Charles VIII et qui deviendra le roi Louis XII. Bref, pour l'instant, Charles ne s'en est pas si mal sorti. Il n'en a pour autant pas fini avec les déconvenus. De mauvaises nouvelles arrivent de Naples pendant qu'il est en train, lui, de remonter vers la France. Le parti aragonais et ses alliés ont lancé à Naples une vaste offensive contre Gilbert de Montpensier. Et le vice-roi a fini par être battu par ce parti aragonais. On a l'impression que la roue tourne, que tout ce qui est français maintenant est pourchassé et le sang des Français coule partout. Quant à Montpensier, il va mourir peu après. On pense qu'il a été victime de la peste. Alors, quand on disait la peste à l'époque, ça voulait dire une infection virale quelconque. En quelques mois, tout ce que Charles avait accompli à Naples s'est effondré. Mais ça ne veut pas dire que son désir l'ait quitté. D'ailleurs, la situation diplomatique de la France se redresse. La plupart des membres de cette Ligue de Venise qui avait été formée contre elle vont revenir à de meilleurs sentiments. On se rabiboche avec les Français, ce qui fait que, à la charnière des années 1497-1498, Charles se prépare à lancer une nouvelle expédition et à reconquérir Naples. Oui, sauf que vous savez que il va se heurter le front sur le linteau d'une porte à Amboise et que, au printemps 1498, la mort du roi Charles va tout interrompre.
Oh!
Vous avez reconnu le Dies Irae du Requiem de Verdi. Le chœur et l'orchestre symphonique de Chicago étaient sous la direction de Sir Georg Scholti.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, c'est maintenant le duc d'Orléans qui devient roi, puisque Charles VIII est mort sans héritier et mâle, n'est-ce pas ? D'ailleurs, le duc d'Orléans, devenu le roi Louis XII, va épouser, en deuxième noce, il va épouser celle qui avait été la femme de Charles VIII et la reine de France, Anne de Bretagne. Et bien sûr que l'Italie continue d'intéresser Louis XII au moins autant qu'elle intéressait Charles VIII. Le voilà qui de nouveau se relance à l'assaut de l'Italie. Alors j'ai eu l'occasion ici de vous raconter l'histoire de celui qu'il a nommé qui était son neveu, hein, et qu'il a nommé à la tête des troupes françaises en Italie, Gaston de Foix, duc de Nemours, qui s'était battu, rappelez-vous, contre le pape Jules II, d'une part. Jules II avait d'ailleurs failli rester. La tension nerveuse avait été tellement forte, mais finalement, Jules II avait resserré ses liens avec Venise, avec l'Espagne et bientôt avec l'Angleterre au sein d'une Sainte Ligue. Et cette Sainte Ligue, elle présentait aux Français un potentiel tout à fait effrayant, d'autant plus qu'il y avait l'appui des Suisses derrière. On va aller voir les Suisses bientôt se battre à Merignano, Marignan, comme nous avons pris l'habitude de dire. Pour l'instant, on est encore en 1512. Les Aragonais, les Vénitiens, les Pontificaux approchent avec des troupes importantes de la ville absolument symbolique de Bologne. Et pour Gaston de Foix, pas question d'attendre passivement, d'autant qu'il se murmure que le puissant empereur serait tenté lui aussi de se joindre à la Sainte Ligue. Il va falloir montrer que les Français sont toujours dignes, capables de se battre. Il va falloir montrer aussi pour Gaston de Foix qu'il est digne de la confiance de Louis XII. Gaston retrouve son allié le duc de Ferrare et se rapproche hardiment de Bologne, raconte Bernard Quillier, où Lautrec semblait sur le point de se rendre. En fait, il apprend alors que l'investissement n'est pas terminé. Il repère le passage resté libre et en pleine nuit, à travers les tourbillons de neige et de vent, au nez et à la barbe des assiégeants endormis, il fait entrer dans la ville 1300 lances et 14 000 gens de pied. L'exploit, passablement invraisemblable, est cependant bien réel. Décidément, c'est vrai que la France aura beaucoup perdu au fil de ces différentes guerres d'Italie, mais elle aura fait preuve incroyablement partout d'une bravoure quasiment sans exemple. Des troupes fraîches vont être envoyées par Louis XII, qui espère une victoire rapide dans la bataille qui va se mener à Ravenne. Et c'est à Ravenne que Foix, ce jeune capitaine, va être touché d'un coup d'arquebuse. Il s'effondre de sa monture et à ce moment-là, il sera frappé à terre par plusieurs ennemis. On peut dire que la bataille de Ravenne, finalement, est gagnée, mais qu'elle est gagnée à quel prix ? Les Français ont perdu plus de 3000 hommes, les coalisés peut-être deux fois plus, et très vite, Gaston sera remplacé par le fameux La Palice. On avait vu d'ailleurs un autre grand soldat français s'illustrer aux côtés de Gaston de Foix. C'était un certain chevalier Bayard, bien sûr. Vous savez qu'en 1515, enfin au tournant de l'année 1514-1515, va mourir le roi Louis XII et celui qui le remplace, c'est François Ier.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et François Ier ne va pas se montrer beaucoup plus heureux en Italie que ses deux prédécesseurs. Comme ses devanciers, il rêve de reprendre pied, il rêve notamment de reconquérir le Milanais. Et dans un premier temps, grâce à la victoire de septembre 1515, grâce à la victoire de Marignan, on peut penser que la France, de nouveau, reprend pied sur la péninsule. La vérité, vous le savez, c'est que 10 ans plus tard, à Pavie, tout cela volera en éclats et qu'entre-temps, nous aurons perdu énormément d'argent dans cette histoire. On peut dire que d'une certaine manière, la couronne de France s'est en partie ruinée dans cette guerre d'Italie. Mais ça c'est le point de vue français. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, dans les différents États qui constituent l'Italie de l'époque, on a vécu ces guerres et ce que ces guerres ont coûté, bien sûr, à ces différents États, mais ce qu'elles leur ont aussi apporté. C'est l'objet même de cet ouvrage, « Les guerres d'Italie, un conflit européen » qui est dirigé par Didier Le Fur et auquel ont contribué tant de chercheurs qui connaissent chacun parfaitement l'histoire de tous ces petits États et qui nous donne donc pour la première fois une vision qu'on pourrait qualifier de stéréoscopique de ce moment, de ce long demi-siècle qui aura été peut-être pour les Français un mirage, qui aura été peut-être aussi pour l'Europe une épreuve de vérité.
Vous écoutez Radio Classique.